Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo et l'événement NBA de cette semaine, c'est bien sûr la trade deadline, la date limite donc pour les transferts en NBA qui est fixée à ce jeudi, à ce 10 février. Et forcément, on a des choses à dire, donc pour en parler cette semaine, nous sommes trois, une nouvelle fois. Commencez donc par le supporter, je pense, de la team Payton pour le Racing Star Challenge cette année, c'est Alan. Alan, team LaMelo, Scotty Barnes ou pas alors?
Team LaMelo, Scotty Barnes ou team Cade, Mobley, France? Mais je suis très hypé. Je suis très heureux de commencer un week-end par ce genre d'événement qui va me faire ne pas me coucher un vendredi soir.
En effet. Et lui, on le connaît plutôt comme défenseur de Desmond Bane ces dernières semaines.
Moi aussi.
Mais je sais pas, ça va suffire à le faire rentrer dans la team Isaiah pour le Rising Star. Tom, on suit Desmond Bane?
Ouais, Desmond Bane, Anthony Edwards, en mode salamèche, quoi.
Effectivement, donc rendez-vous, ça ce sera pour le premier jour du All-Star Weekend, on en avait parlé dans le podcast de la semaine dernière. Mais cette semaine, aujourd'hui, on va parler de cette fameuse trade deadline. Je ne vais pas m'épancher pendant l'introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc chers auditeurs, auditrices, vous êtes une nouvelle fois les bienvenus chez Dunk Hebdo, sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on vous offre donc un épisode consacré, c'est l'heure de la trade deadline 2022. La NBA Trade Deadline, donc la date limite des échanges en NBA, ce sera ce jeudi, ce 10 février. D'après le site de la NBA, cette tradition remonte à 1947 hein, quand même, mais elle est officiellement tracée depuis 1987. À noter d'ailleurs pour l'anecdote inutile du jour que le premier trade enregistré, il est signé des Bulls, qui ont récupéré donc un certain Ben Pocket qui était à Cleveland. Voilà pour l'anecdote, ça me fait plaisir. Mais donc traditionnellement, la trade deadline, c'est donc à 9h du soir, 9 p.m. East Time, le 16e jeudi de la saison, ce qui nous donne donc ce jeudi cette année. Voilà pour l'historique. On va quand même maintenant passer à ce concept de trade deadline. Et je vais éviter de monopoliser la parole, donc je passe à l'expert contrat et transactions NBA chez Dunk Hebdo. Tom, à quoi ça sert cette trade deadline?
Ben, la trade deadline, c'est le dernier moment où tu peux faire des ajustements dans ton roster autrement que par du coup l'ajout de joueurs qui ont été coupés. Donc c'est le dernier moment où tu peux préparer entre guillemets ton effectif pour les playoffs en échangeant des valeurs présentes contre des peut-être des valeurs futures pour les équipes qui ne jouent rien et le contraire pour les équipes qui jouent quelque chose qui cherchent à se renforcer pour un push en playoff.
Et justement, ça tombe bien parce que ces dernières années, il s'est passé des choses en NBA depuis 1987, certes, mais d'autant plus depuis 1947. Mais surtout, donc, dernièrement, les changements des règles pour la loterie de la draft et l'apparition des play-in, deux changements qui impactent donc forcément cet intérêt sportif là dont tu parles pour la fin de saison. Donc, je me tourne vers toi, Alan, maintenant, notamment par exemple avec ce classement à l'Est où c'est très serré. Hein, les 12 premières équipes sont en 10 matchs, 5 matchs entre le 6e et le 12e là. Donc, est-ce que ça modifie, est-ce que ce scénario il modifie un peu cette approche de trade deadline pour cette année pour toi?
Je pense que le play-in a modifié la manière dont les équipes allaient appréhender la trade deadline, parce qu'avant, on avait vraiment une vraie dichotomie entre on vend ou on achète, en réalité. Donc, on s'améliore sur la fin de saison, quitte à être plus en difficulté sur le long terme, soit on est moins bon sur la fin de saison pour être à long terme meilleur, entre guillemets, cette dichotomie-là. Le play-in, le fait qu'il y ait en gros dans la tête des gens deux spots de plus pour les playoffs, en réalité, moi, ça m'intéresserait énormément de voir sur les 20 prochaines années combien de fois le 9 et le 10 ils se qualifient en playoffs. Je pense que ça sera une étude statistique intéressante pour voir vraiment les effets du play-in. Mais en fait, c'est plus ça donne une chance aux équipes. Ah, on est dedans. Ah, on peut aller faire les playoffs, on peut aller faire le play-in. Et donc, tu peux avoir dans les deux sens, il y a des équipes qui peuvent aller faire le play-in, mais je crois qu'elles n'ont pas envie de le faire, ou leurs fans n'ont pas envie de le faire, ou tu as des équipes qui sont, on a envie d'aller faire le play-in, il faut qu'on y aille, allez, on essaye d'aller faire un move, un ajustement. Et je pense que ça fait que ça, c'est qu'on peut avoir peut-être potentiellement, pour moi, on aura jamais vraiment un énorme chamboulement, on aura toujours des acheteurs, des vendeurs, on aura toujours des gens qui sont peut-être un peu entre les deux. Mais je pense que par contre, ça met un petit peu plus de piment dans la tête des gens sur, bah voilà, cette équipe elle est 11e, 10e, elle va chercher un joueur. Ah bah, c'est, ça peut donner une indication. Ah oui, bon, on va pousser sur la fin de saison. Par contre, une équipe qui est 9, 10, ou même 8, 9, 10 comme Orlando l'an dernier et qui avait, bah, tradé Fournier, Vucevic, Gordon, voilà, c'était un signe. La trade line, pour moi, c'est aussi un moment où tu signales à la NBA, où tu peux signaler à la NBA et aux journalistes, aux fans, dans quelle direction tu peux aller.
Effectivement, ça nous donne à nous aussi des réponses post-trade line. Donc, voilà pour le contexte, hein, le contexte général, messieurs. Je vous propose qu'on passe au cœur du sujet, aux équipes de cette année. Et pour ça, on a décidé, donc, notamment grâce à Tom, de définir deux gros concepts, tu les as évoqués, Alan, celui des vendeurs et celui des acheteurs, avec peut-être quelques nuances, on va y revenir. Bon, les noms sont assez parlants en soi, tu l'as dit, Alan, mais rapidement, Tom, comment toi tu définirais ça? Comment on catégorise les équipes qui sont a priori vendeuses et celles qui sont peut-être un peu plus acheteuses?
Alors du coup, parmi les vendeurs, ça va être les équipes qui vont chercher à déconstruire entre guillemets leur équipe et à prioriser les jeunes ou prioriser le futur et pas cette saison. Et dans les vendeurs, moi, j'en distingue trois. Alors, on va parler peut-être des vendeurs stratégiques, c'est-à-dire que ce sont des équipes qui sont annoncées mauvaises depuis le début de la saison et qui peuvent avoir des pièces par-ci par-là qui peuvent intéresser des équipes qui joueraient, par exemple, un rôle pour les playoffs. Donc là, dans ces cas-là, on aurait, par exemple, les Pistons, le Thunder, le Magic et aussi les Rockets. On a, du coup, les vendeurs d'opportunités, c'est-à-dire que c'était des équipes qui étaient programmées peut-être pour gagner et qui ont un peu déçu et, du coup, qui... là, sont un petit peu dos au mur par rapport à la saison et le contexte de la saison les oblige, du coup, à prendre des décisions de déconstruire un peu l'équipe. Là, on a, par exemple, les Knicks, les Pacers ou les Kings. Et ensuite, on a, pour moi, les vendeurs qu'on peut qualifier comme vendeurs financiers. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui vont essayer de donner des contrats pour passer en dessous de la luxury tax. Là, on aurait, par exemple, les Celtics et les Blazers. Et les Blazers qui ont réalisé un trade, justement, pour faire ça.
Bon bah effectivement, commençons par ces fameux vendeurs. En tête de liste, on a les Pistons, tu les as cités. Donc les Pistons qui, disons, qui ont une pièce actuellement sur ce marché, ce qui sur le papier pour avoir quelques prétendants, même si selon les dernières rumeurs, elle n'est pas tant courtisée que ça. Cette pièce, c'est un certain Jeremy Grant. Et donc les Pistons, est-ce que cette deadline des Pistons, Alan, elle passe par ce cas Grant ou est-ce qu'il y a d'autres choses à surveiller selon toi?
Elle passe par Jeremy Grant, mais elle passe par ce que veut Jeremy Grant, pour moi surtout. On entend beaucoup, tout le monde veut faire des packages pour envoyer Jeremy Grant pour qu'il retrouve son rôle de Denver Bull 2020. Mais est-ce que Jeremy Grant, il a envie de ça? Personnellement, je ne suis pas persuadé. Enfin, s'il a été s'il a pris l'argent et la possibilité d'être option numéro 1 à Détroit, c'est peut-être parce qu'il a envie d'être ça. Peut-être qu'il n'a pas envie de retourner dans un rôle où bah, il joue que off-ball, il fait surtout du catch and shoot et il défend. Alors oui, potentiellement pour gagner un titre, pour aller loin en playoff, c'est des constructions d'équipe qui pourront le mettre plus en avant. Mais est-ce que Jeremy Grant a envie de ça? Je ne suis pas sûr. Et en plus, il faut se poser aussi la question de son contrat suivant parce que en réalité, il y a une extension qui va être possible à lui donner pour l'équipe qui en fait l'acquisition. Est-ce que lui, il se voit dans ce projet-là? Je ne suis pas sûr non plus. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis une équipe qui veut un troisième, quatrième joueur et il y a Jeremy Grant de dispo, je vais le chercher. On a vu dans la bulle 2020, moi j'avais été très impressionné. Je trouvais qu'il avait été vraiment excellent. C'était le troisième meilleur joueur des Nuggets. Enfin, pour moi, il n'y avait pas trop de débat. Alors les deux meilleurs joueurs des Nuggets étaient sur des planètes incroyables. Mais Jeremy Grant, faut pas oublier le travail défensif qu'il avait fait dans la série contre les Clippers, même contre les Lakers. Hein, il est bon contre les Lakers. Donc, je pense que il faut voir ce que veut Jeremy Grant. Si t'es Détroit, tu dois le trader. Mais c'est pas aussi simple que ça.
Est-ce qu'il est pas là le nœud du problème, Tom? Ce que je disais tout à l'heure, finalement, on apprend selon les rumeurs qu'il y a peu de courtisans pour Jeremy Grant. Est-ce que c'est pas ça qui refroidit tout le monde? Même si sa valeur, à l'instant T, en tout cas pour la fin de saison, là justement, c'est une des questions qui se posent à la trade deadline, sa valeur sportive est intéressante comme troisième, quatrième option quand tu vas viser le titre, etc. Mais sur le long terme, peut-être que du coup, il coûterait un peu cher. Est-ce que c'est ça qui refroidit tout le monde selon toi?
Il y a ça, et puis au-delà de ce qu'a dit Alan, il faut savoir que Jeremy Grant, il a expliqué en fait qu'il signait à Détroit plutôt qu'à Denver qui lui avait fait la même offre, parce qu'en fait, il voulait être dans une ville de noir entre guillemets pour enfin pour paraphraser hein, une ville de noir jouer dans de jouer pour un coach noir dans une organisation noire avec Troy Weaver. Troy Weaver qui était celui en fait qu'il avait aussi drafté au, enfin qui était dans ouais, le front office qu'il avait drafté au niveau de Philly, il a transféré pour lui quand il est arrivé à OKC. Et il a aussi essayé de le récupérer du coup à Détroit. Donc il y a peut-être un côté relationnel à ne pas sous-estimer dans l'affect Jeremy Grant. Et aussi tu as la partie prix, c'est-à-dire que est-ce que tu veux payer entre guillemets pour le Jeremy Grant de Détroit, sauf que alors que tu veux faire de Jeremy Grant le joueur de Denver. Donc du coup, tu vois, entre le prix que tu vas payer pour l'utilité que tu auras, finalement, peut-être que tu as une distance qui va faire que ce transfert-là ne se fera pas. Après, logiquement, c'est un transfert qui devrait se faire, puisque Détroit n'a peut-être quasi aucun intérêt à avoir Jeremy Grant sur le terrain aujourd'hui, et tu as des joueurs qui sont à côté, qui peuvent développer. Tu vois, on voit des... Enfin, il y a des bonnes prestations, par exemple, de gars comme Amadou Diallo qui arrivent à émerger un peu dans la rotation. Ça laisserait un petit peu de place pour aussi Sadiq Bey et peut-être pour d'autres joueurs d'éclore, en fait, à l'intérieur de la rotation, si lui n'est pas là.
Oui, tout à fait. De toute façon, le nœud du problème, pour moi, il est là. C'est là où tu l'as dit. C'est ce que vont demander les Pistons comme échange. C'est la valeur voilà, qui est donnée, justement, avec cette problématique, avec les déclats peut-être de Jeremy Grant, ça va faire baisser sa valeur. Il faut voir si, du coup, ça intéresse les Pistons. Selon ce qui va leur être proposé, bon, a priori, ils devraient être à l'écoute quand même. Donc ça, c'est le cas Pistons. Effectivement, c'était le premier, mais il y a d'autres vendeurs, tu les as cités. Rockets, Thunder, Magic. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire sur ces équipes-là. On a entendu les Rockets se positionner en disant « Bon, écoutez, sur les cas Westbrook, Harden, si vous voulez revenir, nous, on veut bien. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça risque d'arriver? Je ne suis pas sûr. »
Non, c'est plus de ces équipes-là. Pour moi, c'est de l'ajout de role-player plus pour des équipes de play-off, quoi. Si jamais elles veulent faire l'acquisition d'Eric Gordon. Christian Wood, je sais pas, comme l'avait déjà dit Tom, on l'a jamais vu dans un contexte d'équipe qui gagne. Ça veut pas dire qu'il peut pas le faire. Faut pas penser que parce qu'on n'a pas vu quelque chose, elle ne peut pas se faire. Mais j'attends de voir comment ça se fera. Et si y a un bon trade pour Christian Wood, je dis, pour des équipes, je pense qu'il faut le faire. Pour OKC, ouais.
Encore des pics.
On aurait pu penser avant le début de saison Favors, mais Favors, non, je pense qu'il était plus pour les playoffs aujourd'hui. Kenrich Williams, c'est peut-être celui qui t'aide le plus si jamais tu veux aller chercher un joueur du Thunder. Ou Lou Dort. Mais est-ce que Lou Dort est sur la liste des transferts? Je sais pas. C'est des équipes qui, on va pas se mentir, elles visent le top 4 à la draft. Enfin, elles n'ont pas intérêt à ce qu'Eric Gordon, Christian Wood, même John Wall, entre guillemets, ou Kenrich Williams ou d'autres soient sur le terrain. Donc, elles ont l'intérêt à ce que donner le plus de minutes possible à tous leurs jeunes, et elles en ont énormément. C'est des équipes qui ont drafté en tout six joueurs au premier tour l'an dernier. Si tu fais juste OKC plus Houston, ça veut dire 6 contrats garantis de 4 ans. Ces joueurs-là, faut qu'ils voient le terrain. Donc, ouais, je pense que sur la fin de saison, ils ont intérêt à vendre plutôt.
Oui, puis en plus, c'est des équipes, on l'a pas dit, mais c'est un peu sous-entendu, c'est des équipes qui, traditionnellement, et c'est un peu le cas ici, ont la capacité d'absorber des contrats relativement élevés pour d'autres équipes qu'on va peut-être évoquer au niveau des vendeurs, entre guillemets. Ouais. Même chose, Tom, quelque chose à ajouter?
Bah, surtout OKC qui est aujourd'hui près de 20 millions en dessous du salary floor, puisque certaines des trades exceptions qui leur permettaient de rester un petit peu plus haut ont expiré, comme l'a noté Bobby Marks. Donc du coup, si jamais ils restent aussi bas, entre guillemets, dans le salary floor, tout l'argent... il y a un salary cap, mais il y a un minimum salarial que tu dois dépenser chaque année. Et du coup, si tu n'atteins pas le minimum salarial que tu dois dépenser chaque année, qui est à peu près 90%, je crois, du cap, ce qui se passe, c'est que tu dois reverser la différence et répartir entre les différents joueurs qui ont été dans ton roster. Donc, les gars qui ont fait un contrat de 10 jours, ben, potentiellement, ils peuvent avoir une belle prime à la fin de l'année si tu ne fais pas ce que tu veux.
En vrai.
Voilà, donc du coup, et ils ont la capacité, du coup, grâce à ça, de pouvoir faire des moves, entre guillemets, sans devoir équilibrer les salaires. C'est-à-dire que tu peux envoyer 2 millions et récupérer 20 millions, quoi, par exemple.
Mmh. Ouais, c'est ce qu'on entend par absorber des contrats.
Voilà.
Grave.
En effet. Bon, deuxième catégorie, Tom, chez nos amis les vendeurs, il y a les opportunistes, comme tu les as appelés, ceux qui ont un début de saison assez compliqué, par rapport aux attentes en tout cas. Et en tête de gondole, on pense tout de suite aux New York Knicks, après une très bonne saison l'année dernière, avec voilà, on en a beaucoup parlé de cette saison des Knicks. On a l'impression qu'on revient un peu sur terre en cette saison 2021-2022. Donc les Knicks qui sont quand même 12e, qui ont déjà commencé à bouger. Il y a eu un premier trade il y a quelques jours maintenant. Donc ils ont récupéré Cam Reddish, qui ne joue pas, certes, mais en tout cas ils ont récupéré Cam Reddish pour Kevin Knox. Et il me semble qu'il y a un swap pick dans cette histoire.
Ouais.
Bon, du côté des Knicks, on en est où? Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on a vraiment des joueurs avec un vrai intérêt? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un Knicks, Alan?
Mais la question que je pose, c'est qui a un contrat intéressant au Knicks qui peut intéresser d'autres équipes et pour les aider sur un run de playoff sans se mettre en difficulté sur le long terme?
Bonne question.
Moi, je pense que, par exemple, des gars comme Alec Burks,
Burks,
ou Fournier.
Burks, je suis d'accord, ouais.
Burks, en fait, le truc avec Fournier, par exemple, Fournier, là où je trouve qu'il pourrait être intéressant, ce serait, par exemple, dans une équipe comme Dallas.
Ouais, comme ce que tu disais, comme ce qu'on disait l'année dernière, toi, mais ça s'est pas fait l'année dernière. Pourquoi Dallas va le faire maintenant?
Tout simplement parce que Tim Hardaway ne peut pas jouer jusqu'à la fin de la saison.
C'est vrai.
Donc, du coup, c'est quand même un spot où, même si, enfin, pour moi, Evan Fournier est un meilleur joueur que Tim Hardaway Jr., du coup. Et lui, il joue.
Ouais, mais...
Et Dallas a aucun moyen de se renforcer au-delà de ça.
Mais
quoi.
Est-ce que les Knicks, parce qu'il y a les deux cas, les Knicks qui seraient vendeurs, est-ce que les Knicks peuvent déjà faire cet aveu de faiblesse par rapport à l'année dernière et dire bon, bah, c'est bon, on veut perdre, entre guillemets, on envoie Fournier sur lequel on a un peu investi pour un joueur qui ne joue pas en disant grosso modo, on tank? Ah, c'est compliqué. Et en plus, tu as Thibodeau en coach.
Pour moi, ça semble logique tout simplement parce que le front office a fait des moves et veut voir jouer les jeunes joueurs. Tu penses que ça fait plaisir au front office que Cam Reddish il joue pas?
Des longues histoires entre Thibodeau et ses front office.
Ouais, mais je pense que ça fait pas non plus plaisir au front office que Thibodeau, entre guillemets, cette année, n'arrive pas à faire jouer ensemble Randle, Evan,
oui, Barrett,
Kemba,
et tout ça.
Barrett et tout. Hein. Je pense que c'est un des line-up qui joue plus, comme on le dit souvent, parce que c'est Thibodeau. Je pense pas que... Foncièrement, oui, ils sont moins bons que l'an dernier, mais c'est juste qu'ils sont pas bien moins bons. Ils ont moins... C'est juste que la chance qu'ils avaient l'an dernier sur les équipes qui mettaient rien à 3 points, bah, elle est un petit peu revenue à la normale, on va dire.
Ouais. Et le niveau de Randle.
Le niveau de Randle est revenu à la normale. Il y a deux choses qui sont revenues à la normale, qui n'étaient pas normales l'an dernier. C'était la chance qu'ils avaient sur les 3 points des adversaires et le niveau offensif de Randle, notamment au tir. Cette année, ces deux choses-là, c'était en haut, en bas, elles sont revenues à quelque chose de normal. Et donc, avec en plus, je pense qu'ils avaient aussi, je trouvais que Bullock était super bon l'an dernier. Et d'ailleurs, peut-être qu'il redevient la normale du côté de Dallas, Bullock. Il y a plein de choses qui n'étaient pas normales, en fait, au Knicks cette année, l'année dernière. Il y a Derrick Rose qui est blessé. Voilà, ils ont un peu moins de chance. La question, moi, je suis d'accord avec Adrien, c'est est-ce que tu peux, 6 mois après, et même, allez, quelques mois après, c'était l'été où ils font, allez, on avait l'avantage du terrain, bon, on extension à Randle, on va chercher Evan Fournier sur un gros contrat. Il y a l'extension de Barrett bientôt à laquelle il va falloir penser. Je suis pas sûr que tu peux trader. Déjà, Randle, le contrat, il va devenir très problématique. Je suis pas sûr que tu peux lâcher Fournier, moi, très honnêtement.
Ah, ce Fournier, c'est quoi? C'est 3 ans, 4 ans encore derrière? À 20 millions?
Bah, il reste 3 ans. Il a signé 4 ans, 72 millions, 4 ans, 82, un truc comme ça, il a dû signer.
Ouais, c'est en gros 3 ans avec la quatrième en option.
Ouais, c'est ça.
C'est compliqué à faire à suivre, mais effectivement, en termes de pièces, c'est difficile de voir qui voudrait acheter chez les Knicks. Est-ce que les Knicks peuvent faire
cette avion? Après, Tom a raison. En vrai, je pense que le front office et les fans des Knicks, oui, ils ont envie de voir jouer Grimes.
Quentin Grimes, ils ont envie de jouer voir
Kutler, Reddish, Ron Robinson, Barrett, ces joueurs-là, je pense. Peut-être même McBride ou les mecs, des autres mecs qu'ils ont draftés.
Ça, c'est un peu point de vue froid.
C'est ça, le meilleur moyen, en fait. Le meilleur moyen, en gros, pour forcer Thibodeau, entre guillemets, à faire jouer les jeunes, c'est lui enlever les vétérans.
comme avec Steven sur certains moments à Boston.
Effectivement, mais ça, c'est l'analyse froide et logique. Et c'est vrai que, pour moi, j'y reviens, mais ce nœud du problème, de l'aveu de faiblesse que ce serait, et puis du coup, du manque de lucidité que tu as eu cet été, parce que c'est ça, au moment où tu décides de dire, bon, on a eu l'avantage du terrain, tout ce que tu viens de dire, Alan, je vais pas te reciter. Et ben, au moment où tu fais ça, c'est un constat que tu fais, c'est une analyse. Et si là, tu reviens dessus, c'est que tu avoues que tu as mal évalué ce qui s'était passé. Et donc, tu as mal fait ton boulot. Donc, c'est aussi compliqué d'un point de vue d'un front office de prendre cette décision.
Souvent, il faut quand même prendre les décisions plus trop tôt plutôt que trop tard. On va pas se poser. Donc, est-ce qu'ils auront le courage de le faire? parce que c'est plus dans les médias ou dans les fans que ça va râler. Si eux, ils sont droits dans leur bottes, qu'ils savent où ils vont, où ils vont, et qu'ils arrivent un peu à se délaisser d'un ou deux contrats qui sont pas bons, je pense qu'ils seront satisfaits. Après, faudra le vendre au public.
Bon, bah, affaire à suivre pour voir si ça va bouger du côté des Knicks. Parmi les autres opportunistes dont on risque d'entendre parler, pour le coup, il y a les Pacers, avec évidemment la valeur de Miles Turner, on en parle très souvent. Il y a aussi le cas Sabonis. Il y a même le Caris LeVert, TJ Warren. On est vraiment du côté des Pacers, qui sont traditionnellement toujours cette équipe moyenne en bas de tableau, play-off, play-in. Bon, là, on est loin quand même. Hein. On est 13e du côté des Pacers. Ils sont à 19-35. C'est compliqué, il va falloir faire quelque chose. Ils ont des joueurs avec une certaine valeur. Qui on voit bouger en premier plutôt, Tom ?
Moi, je pense plus à Caris LeVert. Je pense que c'est un joueur qui a peut-être plus que certaines équipes qui sont dans les acheteurs recherche. Par exemple, tu vois, on a parlé de Dallas. Par exemple, eux, c'est typiquement une équipe qui pourrait être intéressée par le contrat de Tim Hardaway Jr. qui, même s'il joue pas, c'est un joueur qui a encore un long contrat derrière, et c'est dans la stratégie entre guillemets de retool en fait d'Indiana, de récupérer des joueurs qui ont déjà un long contrat pour remplacer ceux qui portent. Comme ça, ils s'assurent, en fait, parce que personne ne signe vraiment à Indiana, quoi. Donc, ils récupèrent déjà, qui sont déjà sur des joueurs qui sont déjà sur de longs contrats, pour ensuite garder, en fait, cette valeur-là, et après l'échanger contre d'autres joueurs qui seraient un petit peu plus tard sur de longs contrats. Donc, je trouve que LeVert, il a un intérêt, par exemple, pour les Cavs. Il a un intérêt aussi pour Dallas. Donc, je pense que ça peut être la première pièce à bouger, sachant que ce qu'ils ont demandé, par exemple, pour Sabonis et le cas de la santé du pied de Miles Turner sont pas forcément très encourageants, et peut-être qu'ils auront de meilleures offres en attendant l'été, quoi. Ils sont pas pressés, je pense. Même si le timing est meilleur maintenant, je pense que il y aura plus de... les joueurs perdront pas tant de valeur que ça entre maintenant et la fin de saison. Donc, pour moi, ils sont pas obligés de tout déconstruire dès maintenant.
Ah, c'est le point central, Alan, j'imagine que tu es d'accord. C'est effectivement, c'est pour ça qu'ils sont dans les opportunistes, les Pacers, parce que oui, ils ont de la matière, des joueurs avec de la valeur, des choses à vendre, mais ils ne sont pas obligés, eux, de céder au moindre appel, quoi.
Non. Et même si Tom, Ben, ils en parlent souvent de la stratégie historique des Pacers, qui n'est pas de tanker. Ce qu'ils font depuis 2-3 semaines, là, les joueurs qu'ils mettent sur le terrain... C'est pas du tanking fort, mais
c'est subtil. Il
y a beaucoup de rookies. Il y a des rookies non draftés. Il y a Terry Taylor, l'ancien d'Austin Pay, qui joue. Ils font beaucoup jouer Dwayne Washington, Isaiah Jackson. Ces mecs-là jouent. Et quand c'est LeVert qui est ton ball handler numéro un avec tout ça, il va faire des stats, mais ton équipe va pas gagner. Ils ont perdu contre Orlando. Ils perdent beaucoup de matchs. Pas l'impression qu'on les qualifie encore comme tankers ou choses comme ça. Je pense qu'Indiana, ouais, ils vont être à l'affût. Et comme l'a dit Tom, c'est pas grave. Au pire, il y a les blessures. Entre guillemets, ils sont blessés, Turner et ça. Et parfois, Sabonis. Donc, s'ils jouent pas, c'est pas qu'on tanque, c'est parce qu'ils sont blessés. Donc, moi, j'attends de voir. LeVert, ouais, c'est pas un joueur que je trouve extrêmement valuable dans pour les playoffs, hein, il a besoin de beaucoup de tirs pour marquer des points. Il y a pas beaucoup sur la ligne. Il est pas incroyable dans la création pour les autres. Il est tellement dépendant de son tir extérieur et de son pull-up. Mais dans des équipes comme Dallas, comme l'a dit Tom, des équipes comme Cleveland qui font jouer, qui n'ont pas vraiment de backup meneur, qui n'ont pas besoin de deuxième initiateur quand leur premier initiateur n'est pas sur le terrain. Surtout si Dallas y a un souci avec Brunson, elles peuvent clairement se positionner dessus. Clairement.
C'est un opportunisme de situation, on va dire, du côté des Pacers, ouais. Avec les blessures. Du coup, en plus, LeVert fait ses stats, ce qui peut augmenter un petit peu sa valeur à l'instant T pour certaines équipes. Autre équipe qui était classée dans cette catégorie, Tom, il y avait les Kings. Alors, les Kings, toujours un grand point d'interrogation.
Deux victoires de suite. Deux victoires de suite pour les Kings.
Ouais, c'est vrai. Et finalement, après, ils ne sont pas si loin des play-ins, hein, si on regarde les classements. Ils sont
C'est ça qui est dramatique.
Voilà. Bah, du coup, voilà, bah, je vais te lancer là-dessus, Tom. C'est ça qui est dramatique. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vraiment, là, on est à l'opportunité pour vendre du côté des Kings ? Parce que les joueurs avec des valeurs, c'est les joueurs dont tu as besoin sur le terrain pour gagner des matchs.
Après, je trouve que c'est un effectif qui est quand même au bord de l'implosion. Pour moi, tu peux pas. Enfin, c'est pas possible que rien ne se passe avec. Enfin, vu toutes les rumeurs qu'il y a déjà eu à l'intérieur d'équipe sur tous les joueurs limites de l'équipe. pour moi, c'est impossible que le vestiaire soit sain, en fait. Parce qu'il y a tout le monde qui a eu son nom à un moment évoqué.
Il n'y a pas eu un tweet de NBA Central sur pas un joueur des Kings, quasiment.
Ouais, c'est ça.
C'est peut-être Mimi Skinta.
Fox, Haliburton,
Hild, Barnes, part... Holmes.
Barnes, un moment Devion Mitchell quand il parlait de Ben Simmons, t'as eu Richon Holmes aussi, enfin tout le monde, Buddy Hield, tout le monde a été à un moment donné évoqué dans des rumeurs de
Harkless qui peut être la bonne pièce à ajouter, on sait jamais.
C'est ça, donc du coup, pour moi, il y a au moins un move qui va être fait dans un sens ou dans un autre. En début de saison, je pensais que c'est une équipe qui serait plus allée chercher par exemple un joueur qui avait un long contrat, du coup, pour de la même façon qu'Indiana, hein, récupérer un joueur de bon niveau qui est peut-être surpayé et qui a un long contrat pour pouvoir le garder à Sacramento. Mais du coup là, je pense qu'ils seront vendeurs et que je pense que tous leurs joueurs sont quasi sur le marché. Et puis voilà, il y a eu un article du coup de Adrian Wojnarowski d'ESPN qui disait que il quittait les poursuites de Ben Simmons. Mais ça veut pas dire qu'ils seront pas actifs à la deadline, et je pense qu'ils seront vendeurs et qu'il y a au moins deux joueurs du 6 majeur, entre guillemets, qui seront plus là.
On en prend un pari alors, Alan? C'est lesquels qui vont être achetés, qui sautent, c'est un peu dur.
Super compliqué. En théorie, théoriquement, le duo Hield-Barnes est celui qui peut faire du sens dans beaucoup plus d'équipes sans mettre en péril le futur à long terme. Faire un trade pour De'Aaron Fox aujourd'hui, c'est faire changer un peu ta timeline. C'est-à-dire, moi, si une équipe comme Boston se positionne sur De'Aaron Fox, je suis très content. Mais c'est un move à faire, c'est un vrai truc à faire. Tandis qu'un Buddy Hield ou un Harrison Barnes, ça peut être plus entre guillemets simple à ingérer pour une fin de saison et un post-run de playoff. Richon Holmes, pareil, je suis attendu de voir. Je pense qu'Arkless va bouger, moi. Et Arkless, ça va être un des trucs les plus faciles à bouger.
Il y a un autre nom, si on prend le problème à l'envers, parce que j'entends et puis tu as bien raison, c'est un truc dont on parle souvent, c'est les joueurs qui sont plus simples à intégrer ailleurs, qui ne vont pas mettre en danger tes finances sur le long terme, etc., etc. Mais du point de vue des Kings, il y a la vraie question, c'est un gars qui s'appelle Marvin Bagley.
Ouais, on oublie, hein. On oublie.
On oublie, ouais, mais est-ce qu'on quand même, on n'a pas. S'il y a des.
Mais penses quoi? Tu penses qu'ils vont. Une équipe qui s'intéresse à Bagley, c'est pour le relancer et donc perdre des matchs ou l'utiliser pour les playoffs?
Ah bah c'est plus le relancer, perdre des matchs, techniquement, ouais. Je pense aussi. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est le nom que j'imagine peut potentiellement bouger, même si tu devrais pouvoir attendre l'été si tu es justement une équipe dans cette optique-là. Mais théoriquement, il peut bouger justement pour ça, parce qu'a priori, bon, Bagley du côté des Kings, c'est. On arrête cette tentative de timeline là, entre guillemets, ce que tu évoquais pour.
C'est quand même 11 millions cette année, Bagley.
Ben oui.
Ouais. C'est
quand même 11 millions.
Sachant qu'il y a très peu de chances qu'il soit prolongé puisqu'il est, il est agent libre restreint. Et pour moi, il y a très peu de chances que les Kings lui proposent, par exemple, la qualifying offer. Donc lui, il a plutôt intérêt d'essayer de rejoindre une équipe qui a ses droits, entre guillemets, qui aura ses entre guillemets ses droits pour le prolonger à la fin de la saison plutôt que rester aux Kings, se voir enlever entre guillemets sa qualifying offer et arriver sur le marché en tant qu'agent libre finalement non restreint qui enlèverait ses capoles entre guillemets des finances de Sacramento et se retrouver en concurrence avec des gars comme Montrezl Harrell pour une mid-level exception par exemple.
Complètement. Une équipe comme je serais lui, j'espérerais atterrir à Portland dans un truc comme ça, quoi. C'est, je pense,
un truc à la relance, voilà. Quoi, un projet un peu
même Indiana,
je vais pas dire bancal, mais un projet un peu de on tente des projets de seconde draft,
exactement,
quoi.
La post draft,
voilà, c'est ça.
Eh bien, affaire à suivre pour les Kings et pour Bagley. Je propose à passer à la catégorie d'après, parce qu'il y en a beaucoup, des équipes en NBA, mine de rien. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Les derniers vendeurs qui ont été catégorisés chez nous, c'est ceux qui sont plus là pour des moves financiers, qui surveillent la fameuse taxe. Donc, il faut faire attention à cette taxe. Et on a commencé à en voir, notamment, je propose de commencer par les Blazers, puisque c'est le gros trade, entre guillemets, le premier gros trade à l'approche de cette trade deadline qui a eu lieu. Avec donc Norman Powell et Robert Covington qui ont été échangés pour Bledsoe, Winslow, Keyon Johnson et un second tour de draft, il me semble.
C'est ça.
Pour du côté des Blazers, on prépare l'après Lillard ou on pense que ça va rejouer derrière, ça va repasser des coups de fil?
Je pense pas qu'on prépare déjà l'après Lillard. Je pense qu'on essaie de garder entre guillemets de la flexibilité déjà pour payer Simmons, puisque je pense qu'ils se sont rendu compte avec ce qu'il est en train de produire là cette saison que peut-être que ce qu'ils avaient imaginé dépenser pour le garder, t'as des équipes qui seraient prêtes à mettre un peu plus et du coup ils ont besoin de se sécuriser entre guillemets une marge entre la luxury tax et le cap pour pouvoir le re-signer tout en ajoutant une pièce supplémentaire par exemple avec la MLE à l'été prochain. Donc c'est plus vraiment un mini nettoyage entre guillemets des finances pour pouvoir potentiellement faire un move pour se renforcer un petit peu plus tard ou avoir l'opportunité de continuer à déconstruire en par exemple en pour si par exemple il y a un transfert de CJ McCollum en étant capable par exemple de le mettre dans un échange et de récupérer de plus gros contrats ou du moins une somme de plus gros contrats en ayant cette flexibilité là. C'est une flexibilité qu'ils avaient pas. Là, c'est quelque chose qu'ils peuvent se permettre de faire.
C'est ça, tout le monde crie au vol dans le trade. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait les encore? Un trade peut être gagnant pour deux équipes. Hein. En réalité, il peut être, moi, je le vois gagnant pour les deux équipes, ce trade. Que joue Portland? Mais que joue Portland cette année? Arrêtons. Portland, si
au basket,
encore
à
leur
je suis même
maximum...
pas sûr.
Oui, mais si, t'es dur. S'ils seraient encore à leur maximum, même avec Damian Lillard, avec cet effectif-là, ils vont encore se faire taper avant les finales de conf. Encore. Donc, pourquoi tu veux faire ça? La blessure de Damian Lillard peut limite t'aider à envisager cette fin de saison en te disant bah ok on va là ils ont récupéré des on peut penser que ça se trouve ils aimaient beaucoup Keyon Johnson avant la draft, ça se trouve ils se disent comme l'a dit Tom, ça nous fait des contrats qu'on peut empiler qu'on peut ensuite aller utiliser pour s'insérer dans des deals, récupérer de futurs joueurs de rotation ou récupérer encore des assets. On ne sait pas quel est le projet, il n'est pas clair. Il n'y a pas un proprio ou un GM qui est sorti qui a dit voilà la timeline des Blazers maintenant c'est ça. Par contre ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est pas le dernier, parce que je pense que Nurkic, CJ, même Nance, des joueurs comme ça, sont potentiellement tradables. Moi, il n'y a que Damian Lillard que je... La question, c'est pas... On prépare l'après Lillard, c'est...
On prépare l'après duo Lillard-CJ, quoi.
Voilà, c'est ça. Pour moi, on prépare peu... C'est à deux sciences. Soit on prépare l'après Lillard, soit on prépare la prochaine bonne équipe de Damian Lillard à Portland. Voilà, c'est comme ça que je le vois.
Effectivement, c'est ce qui a l'air de...
Et j'adore le deal pour les Clippers. Les Clippers, le deal est incroyable pour eux. De toute façon,
bah, c'est un deal pour cette année et l'an prochain, hein, les Clippers. Parce que les Clippers, c'est une équipe qui pourra pas utiliser, c'est une équipe qui pourra même pas utiliser, enfin, vu jusqu'où ils sont dans la taxe, entre guillemets, tu pourras pas sur le marché récupérer des joueurs du niveau de ceux que t'as récupéré.
Complètement.
Donc, tu récupères du coup,
Powell et Covington.
Norman Powell qui est sous contrat pour plusieurs années. Donc, ça te fait un salary slot que tu peux peut-être entre guillemets après mettre avec autre chose pour aller chercher peut-être un autre joueur par exemple du type Jeremy Grant, puisque par exemple Détroit c'est une équipe qui est capable d'acheter un joueur qui a un long contrat comme on l'a dit un peu comme Indiana, ou même peut-être un peu plus tard ça peut te permettre aussi de rendre disponible quelqu'un comme Luke Kennard ou quelque chose comme ça, tu vois. Et puis de l'autre côté t'as aussi les Bird Rights de Robert Covington que tu pourras re-signer en étant très largement au-dessus de la taxe, quoi. Ce que tu n'aurais pas
pour
pu
un
faire
sign and trade ou pour le garder.
Voilà,
exactement. Parce qu'il ne faut pas se mentir, là, sur les postes 2, 3, 4, ils sont archi profonds.
C'était déjà le cas avant, c'est encore plus le cas.
Ils sont méga blindés, donc soit tu es super bien puisque tu es blindé, donc c'est bien d'être blindé si tu veux jouer le titre et que ton proprio il est prêt à payer, soit bah, tu peux utiliser deux de ces joueurs-là, mais les mettre avec des contrats et récupérer un troisième ou quatrième très bon joueur. Et ça, c'est top pour eux. Quand tu es prêt à payer, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, quasiment.
Proprio, c'est ça le proprio. La force du proprio, on le dit souvent, la force du proprio. Quand t'as un proprio qui est prêt à ajouter 25 millions du luxury tax pour un move comme ça, alors qu'il joue même pas. Enfin,
cette
aujourd'hui,
année,
ils sont quoi? Ils sont 7e.
Ouais,
ils sont 7e et ils jouent même pas le titre. Voilà. Tu vois? Donc, quand t'as un proprio qui est prêt à faire ça, malgré sa position, t'es bien dans la NBA.
Et ben, on va utiliser les Clippers pour faire la transition. Passons du côté des acheteurs, parce qu'effectivement, là, on a parlé des équipes qui sont plutôt vendeuses.
Ah, tu veux pas parler de Boston?
Tu veux parler de Boston? Allez, parle de Boston. Je voulais dans le timing, aller utiliser la transition qui était parfaite, mais vas-y. Boston, donc, qui est aussi dans la catégorie financière avec les Blazers.
Ah, il faut pas payer la taxe.
il faut pas payer la
faut
taxe.
Pas, je t'en prie, Alain. Faut pas payer la taxe. Josh Richardson, je compte le conduire à l'aéroport. Si. Alors qu'il est très très bon. Là, Udoka a vraiment, depuis quelques matchs, Boston va mieux. La rotation, c'est extrêmement raccourci et c'est vieilli autour de 9 joueurs, 8-9 joueurs. Nesmith joue plus, Pritchard joue plus, Langford joue, mais joue moins qu'avant. Et donc, on a vraiment ce socle autour du 5 de départ avec les deux grands, Grant Williams, Josh Richardson, et puis Dennis Schroeder. Et je pense que voilà, Dennis Schroeder ou Josh Richardson, s'il y a moyen pour passer sous la luxury tax, de se mettre dans des moves, peut-être des deals à 3, les échanger, tout ça, je pense que ça se fera du côté de Boston. Même si l'équipe va mieux, même si je pense que peut-être il y a peut-être moyen d'aller gratter de l'avantage du terrain au play-in ou avec une grande chance, peut-être autre chose, on verra. Mais je pense que si on peut pas payer la taxe et peut-être bien se positionner pour un move cet été, ça se fera du côté de Boston.
Tu veux ajouter quelque chose, Tom, aussi sur les Celtics?
Surpris de la bienveillance d'Alan envers le proprio. Il veut sauver de l'argent au proprio. incroyable. Mais oui, de toute façon, Dennis Schroeder, on en avait parlé. Hein. Dallas, par exemple, a une trade exception où Dennis Schroeder pourrait rentrer dedans et ça enlèverait Boston de la luxury tax.
Complètement.
Donc, et en même temps, ça créerait un peu de temps de jeu pour les Pritchard, Nesmith et Romeo Langford pour Boston. Donc, à voir, puisque, enfin, encore une fois, hein, personne ne fait ce que Schroeder fait au niveau des Celtics sur le dynamisme, en fait, balle en main. C'est-à-dire aller se projeter au cercle en deux dribbles, quoi. Personne ne fait ça. La verticalité depuis le périmètre. Personne ne fait ça.
Donc, sacrifice de la saison sous l'autel de l'assainissement des finances pour les saisons qui arrivent, pour éventuellement cet été pour les Celtics. Mmh. On t'a pu en parler, Alan. Je peux faire ma transition maintenant qui est vachement moins bien, mais on l'a fait quand même. On passe du côté des acheteurs parce que oui, il y a aussi du monde en NBA qui doit ou qui veut se renforcer, qui va regarder, qui va prospecter notamment les équipes dont on vient de parler. Et la première catégorie d'acheteurs qu'on a sélectionné, c'est justement les équipes qui sont un peu en difficulté, qui ont besoin de faire quelque chose. Alors, on va passer rapidement sur la première puisque ce sont les Lakers de Los Angeles, évidemment, qu'on attend voilà, après le trade pour Westbrook. Bref, on connaît les noms, on en a beaucoup parlé. On a fait un podcast il y a quelques jours, donc évidemment, je vous renvoie vers celui-ci si vous voulez plus de détails. Beaucoup de cristallisation autour du cas Westbrook. Messieurs, je vous laisse la parole parce que moi, j'étais dans le podcast sur les Lakers. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a des changements possibles? Est-ce que tout tourne autour du cas Westbrook? Qu'est-ce qu'on fait quand on est les Lakers?
Vas-y, Tom, je t'en prie.
Ben, le truc avec les Lakers, il y a un article du coup d'ESPN de Bobby Marks qui est sorti comme quoi ils ne toucheraient pas du coup à Russell Westbrook en tout cas cette saison. Donc tout va se jouer autour du package Kendrick Nunn,
Talen Horton-Tucker.
Talen Horton-Tucker et le pick 2027 des Lakers. Donc tout va se jouer. Qu'est-ce que ça peut t'acheter, sachant que enfin en dehors de ça, ils ont aucun move à faire puisque ce sont les deux seuls joueurs des Lakers qui ne sont pas ni au max, ni au minimum.
Oh, elle est incroyable cette stat quand même.
Sauf Luol Deng, mais qui est plus dans l'effectif.
Il est dans les finances, mais il n'est plus dans les.
Mais il n'est pas au minimum.
Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est ça la problématique. Donc, qu'est-ce que ça peut t'acheter? Qui est-ce que ça peut intéresser? Et du coup, est-ce que entre les joueurs et l'intangibilité du coup du pic, est-ce que le pic 2027 n'a pas plus de valeur finalement que les joueurs?
Alan, une question t'a été posée.
Moi, je me méfie tout le temps avec des franchises comme les Lakers du ouais, alors ils seront oh, ce sera super, ça se trouve là après LeBron, ils seront nuls. Non, c'est ouais, peut-être, mais c'est les Lakers. Enfin, ça me surprendrait pas qu'en 2027, ils aient, je vais pas dire des noms, hein, ça va énerver les gens, mais ils peuvent récupérer deux All-Stars avant.
Les gens signent aux Lakers contrairement à Indiana qu'on citait tout à l'heure.
Voilà, exactement. Donc le pic, ouais, je pense que le pic est intéressant. Pour moi, tout deal autour des Lakers aujourd'hui se fait parce qu'une équipe aime Talen Horton-Tucker, c'est tout. Il faut qu'une équipe aime Talen Horton-Tucker et pense qu'il peut être starter NBA. Aujourd'hui, c'est pas un starter NBA, c'est un joueur encore très jeune, très brut, qui a des capacités basket et athlétiques extrêmement détonnantes et qui peuvent plaire. mais c'est un joueur qui a encore en contrat l'an prochain, qui a une option à, je crois, 10-12 millions dans 2 ans. Donc tu le prends pour 2 ans et demi, sauf si l'année prochaine il est incroyable et donc tu dois le payer parce qu'il prendrait pas son option et donc il sortirait sur le contrat. Donc tout dépend si t'aimes Ty Norton Tucker. C'est des équipes qui ont des je sais pas, après ça dépend aussi qu'est-ce que veulent les Lakers, enfin qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre d'essayer d'aller récupérer. Ty Norton Tucker plus Kendrick Nunn plus un pic aujourd'hui aux alentours de quoi, 13 millions, 12-13 millions. Après, ils peuvent rajouter un ou deux minimum et t'arrives à 17 millions. Tu pourrais essayer d'avoir un truc comme ça. Je sais pas ce que tu peux aller chercher, honnêtement. Moi, j'ai pas d'idée.
Ouais, mais le problème, c'est que si tu commences à faire des transferts, entre guillemets, déséquilibrés comme ça, t'as aussi la problématique de roster spot où tu forces l'équipe à devoir couper d'autres personnes pour pouvoir valider le deal.
C'est ça,
sinon, t'es obligé d'intégrer une troisième équipe. Et plus tu intègres du monde, plus c'est difficile, quoi. Donc, à voir en termes de contrat et salarialement, qu'est-ce qu'ils pourront bien pouvoir s'acheter pour ça. Peut-être Eric Gordon, on en avait parlé il y a quelques semaines d'Eric Gordon aux Lakers. Peut-être Caris LeVert, on ne sait pas. Hein ouais. Peut-être aussi, ça rentrerait dans.
Caris LeVert est maniquement qu'aux Lakers.
Mais du coup, vous donnez aucune valeur à Kendrick Nunn, du coup, là-dedans.
Si, mais il n'a pas joué de l'année.
Ouais.
Il a pas joué de l'année.
Et puis c'est une valeur relative. C'est-à-dire que Kendrick Nunn, bon, tu vas pas en faire ton titulaire principal à la main, quoi.
Et Kendrick Nunn, ça a beau être un joueur, entre guillemets, nouveau dans la NBA, il a 26 ans.
Oui, oui.
C'est un joueur qui a fait 4 ans de collège et donc, même s'il était rookie, entre guillemets, l'année de la bulle avec Miami, il était rookie à 23 ou 24 ans. Il a 26 ans, Kendrick Nunn.
Ah, donc, du côté des Lakers, des difficultés sur le terrain et des difficultés de package. On verra bien s'ils arrivent à s'en sortir. Autre équipe en difficulté, alors là, je mets un peu plus de guillemets, puisque au niveau des standings, ça se passe un peu mieux. Même si, bon, ils descendent, parce que c'est serré à l'Est. C'est les Brooklyn Nets, du fameux trident Irving, Harden, KD, un trident qui, comment dire, ça bat de l'aile au sein de...
Il n'existe pas ton trident, ils jouent jamais ensemble ton trident.
Jamais.
Justement, c'est le nœud du problème. Ce cas Irving à mi-temps... Et le cas ces dernières semaines autour d'Harden qui ne serait pas content, qui ne voudrait pas prolonger, c'est les dernières rumeurs qu'on a eues.
La blessure de KD,
bah, qui exacerbe tout ça, parce que justement, dans les différents articles, on entend Harden qui ne serait pas content, parce que justement, il est venu pour jouer avec un trident, il ne joue jamais, et on lui demande la même chose que quand il était à Houston ou ailleurs, c'est-à-dire de tout faire sur le terrain, vu que là, il n'y a pas KD, donc ça ne lui plaît pas. Bon, c'est le nœud du problème du côté des Nets. Est-ce que vraiment, alors avec cette histoire, évidemment, avec les Sixers, est-ce qu'on croit vraiment que ça va bouger autour des gros stars ou est-ce que ça va plutôt être à la marge?
Je pense que ce sera plus à la marge, moi, je pense. Hein. En tout cas, jusqu'à la fin de la saison, je pense que ce sera à la marge. Après, c'est vrai que Brooklyn, ils sont peut-être dans une situation d'urgence avec 7 défaites de suite quand même. C'est pas rien. Après, ils ont toujours le Joker Kevin Durant qui est un très, très gros Joker. Quand tu fais ça, c'est comme l'espèce de carte Joker au Uno.
Ouais,
là. Voilà. C'est un gros Joker qui te donne énormément de marge. Donc oui, ils ont cette carte-là à jouer. Et on a vu que bah, cette équipe-là, quand elle avait Kevin Durant et James Harden, et même s'il y avait des défaites, elle fonctionnait. Donc, si un jour tu peux avoir du coup cette équipe-là avec les trois et le supporting cast, ça peut aller. Là où je pense que ça peut être plus inquiétant pour eux, ce serait au niveau du supporting cast. Ce serait ben, par exemple Joe Harris qui est l'an dernier qui était le quatrième membre vraiment du trident, qui est le quatrième joueur le plus important, qui est blessé à la cheville, qui a demandé une deuxième opinion. C'est jamais bon signe quand un joueur demande une deuxième opinion. Donc, du coup, peut-être que sa fin de saison pourrait être compromise. Et du coup, c'est un gros salary slot, entre guillemets, où tu as une production zéro. Et tu vois que les paris qu'ils ont tentés au minimum, ben, comme tous les joueurs au minimum, ben, c'est du... Soit c'est bon, soit c'est mauvais, soit c'est très mauvais.
C'est vieux, mais, souvent vieux.
Et c'est jamais... Et si tu veux, c'est jamais constant dans la saison. C'est-à-dire que tu en auras un qui sera bon, qui sera pas bon. Et puis, l'autre problématique des Nets... C'est le supporting cast entre guillemets défensif qui n'a pas assez de minutes pour pouvoir peser en défense, tu vois. Enfin les Brown, comment il s'appelle, Nick Claxton,
Carter,
qui est un petit peu en difficulté, Javon Carter, voilà tous ces mecs là. Ben au final t'as tellement pas d'attaque avec l'absence de Durant et tout ça que t'es obligé de compenser. Et en fait ces mecs là qui sont des joueurs entre guillemets de mission défensive. ben, ils sont un petit peu mis sur le côté parce que l'attaque est morte.
Ils sont obligés de mettre Cam Thomas là dernièrement sur leur road trip.
Voilà, ils sont obligés.
Ils sont obligés pour générer de l'attaque et ils se prennent. Ça fonctionne pas du tout en défense. T'es obligé de mettre Patty Mills beaucoup. T'es obligé de. C'est super compliqué. Ouais, moi, je suis eux, je reste droit dans mes bottes et je bouge pas pour un gros truc. Je cède pas au vent de panique, je cède pas au logoré de Shams Charania et tout ça. Là, franchement, si tu fais une quelconque gros move, je pense que ça peut être assez très peu positif, très peu positif pour l'image que tu renvoies à un mec comme KD ou quelque chose comme ça. Donc, un mouvement à la marge, comme l'a dit Tom, peut-être aller chercher, ouais, eux peuvent se positionner, je sais pas, sur un Harkless, sur un truc comme ça, ou un espèce de 7e, 8e joueur, 9e joueur. Parce que là, franchement, moi, les James Johnson dans le 5, les Patty Mills à plus de 30 minutes, les Cam Thomas au jeu plus de 30 minutes.
Blake Griffin, on est en 58 ans.
Voilà, Blake, c'est ça, on est en 2022. Hein. On n'est pas en 2024, on n'est pas en 2025. On n'est pas en 2015, on est en 2022. Donc, si tu veux gagner le titre aujourd'hui, ces joueurs-là doivent moins jouer. Et donc, il faut peut-être des joueurs un peu plus pas prêts pour une joute de play-off. Je sais pas. C'est assez compliqué, mais je pense qu'ils peuvent trouver quand même un ou deux trucs à faire.
Oui, puis comme tu l'as dit, l'image qu'ils ont construite ces quelques années pour faire venir leur free agent, etc., ce serait dommage de la ternir sur un move de panique. Et puis, de toute façon, le pari que tu as fait, et tu le savais, que ces trois-là, tu n'allais pas les avoir souvent, c'est que tu n'as pas besoin de faire 1000 matchs. Si tu as les trois au bon moment, ça peut le faire pour aller au bout de toute façon. Ils te font quand même peur. C'est-à-dire que tu te dis en play-off, si tu tombes contre les Nets et il y a les trois, voilà.
Là, c'est quand même le scénario catastrophe pour eux en réalité. T'as Kevin Durant qui se blesse, t'as Kyrie qui a joué quoi, un dixième des matchs, un neuvième des matchs. T'as Joe Harris qui a pas joué quasiment parce qu'il est blessé. Maintenant, Harden est blessé. Enfin, ça, c'est un scénario catastrophe.
Ouais, c'est,
et là, c'est arrivé en plus dans leur road trip à l'Ouest où tout le monde s'est dit « Oh super, Kyrie va pouvoir jouer parce que c'est à l'Ouest. » Bah, mais ça tombe au moment où en fait, Harden se blesse, KD est pas là, tout le monde est blessé. Donc, ils se sont fait défoncer partout quasiment. Ouais. Donc, sauf aux Warriors, quasiment. Sauf aux Warriors, mais
cette défaite de suite, hein. Cette défaite de suite.
Et là, je pense qu'ils vont perdre à Denver ce soir aussi où on enregistre parce que ils sont sans les trois gros, sans les quatre, tu me diras. Donc, vraiment pas simple. Vraiment. Je pense qu'il faut attendre que la tempête passe, on va dire.
Après, le pire scénario pour eux encore, ce serait par exemple qu'ils se tapent le play-in face à Toronto et Kyrie peut pas aller au Canada.
Ouais, et puis
il peut pas jouer à New York, il peut pas aller au Canada.
Et puis sur un match en 2022, tu peux
prendre un barrage. Faut faire gaffe. Si t'es en play-in, faut faire gaffe.
Tu peux te prendre un barrage à 3 points contre n'importe qui. Hein. Donc, c'est super complexe.
Ouais. Ouais, en parlant de blessures qui tombent mal, il y a une autre équipe qui pourrait être un peu acheteuse, c'est le Jazz, avec donc Joe Ingles, qui malheureusement s'est blessé, qui est out pour la saison et qui est quand même une pièce non négligeable de la construction de ce Jazz.
Et pièce financière aussi, pour eux, qui est plus facile à bouger que d'autres pièces.
Oui, parce qu'en plus, il est en fin de contrat, si je dis pas de bêtises.
Ouais, puis il a un contrat pas énorme, tu vois, donc tu pouvais l'ingérer, quoi, je pense.
14 millions, presque 14 millions à peu près.
Bon. Du coup, le Jazz, on en parle régulièrement chez Dunk Hebdo de cette équipe qui, voilà, en saison régulière, fait des bonnes perfs, doit passer un cap en play-off, qui a récupéré Bogdanovic là cette année. On commençait à se dire, allez, peut-être pourquoi pas. Et tu perds Joe Ingles. Bon, est-ce que ça met fin aux ambitions pour cette année? Qu'est-ce qu'on fait, Tom?
Je pense que ça les met un peu sous pression, sachant que Joe Ingles, c'est un joueur qui était important dans le fonctionnement de l'équipe et dans son rôle de connecteur. Alors oui, il était un petit peu en deçà cette saison au niveau du tir à 3 points, et notamment par rapport à la saison de l'an dernier, qui était peut-être quasiment la meilleure saison de sa carrière, où il était en course notamment pour le sixième homme de l'année. Mais c'est un joueur qui est hyper important pour pas forcément la culture, mais la façon dont joue le Jazz. C'est un grand playmaker qui est capable de shooter, qui a une belle vision de jeu et qui, du coup, décharge beaucoup, entre guillemets, les Mike Conley, les Donovan Mitchell, et qui est important pour le banc parce que c'est un joueur qui fait très peu d'erreurs. Et du coup, le fait que lui s'en va, il va être remplacé, par exemple, par un joueur du profil, par exemple, soit Eric Paschal ou Rudy Gay, qui sont des joueurs qui sont dans presque quasiment dans l'opposé, en fait. sont vraiment dans l'opposé, qui n'offrent pas autant de spacing, qui sont pas des joueurs, qui sont plutôt des ball stoppers entre guillemets, là où Joe Ingles serait plus un ball mover. Et c'est vrai que ça pose énormément de, pour moi, de soucis au Jazz. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de ce slot là. Et plutôt que de chercher par exemple un remplacement à Joe Ingles poste pour poste et dans le style qu'il veut, je sais pas si l'autre option ce serait essayer de partir par exemple dans l'autre sens. Et du coup, d'essayer de renforcer peut-être l'équipe défensivement en allant chercher un protecteur de cercle secondaire.
Alan ?
Moi, je veux renforcer l'équipe défensivement, mais je veux pas un protecteur de cercle secondaire. Je veux sacrifier du profil offensif pour chercher quelqu'un pour défendre le point of attack. Ils n'iront nulle part en play.
Tu penses que c'est plus urgent que ça ? Tu penses que c'est plus urgent ?
Je pense que c'est la chose la plus urgente pour eux. Ils peuvent pas aller loin en play-off. Et en plus, ça va encore... Ça va être un cercle extrêmement vicieux parce que c'est encore Gobert qui va prendre sur la dans les médias avec les critiques et tout sur les settings playoffs parce que eh ben ça sera un convoi de gens qui vont pénétrer vers le cercle et lui il devra tout faire. Je pense que c'est un convoi. Contre les Clippers l'an dernier, c'est un convoi. C'est ce qui arrive au cercle. Ils se font blow by par Reggie Jackson l'année dernière sur plein de situations. Donc, je pense que c'est la chose la plus importante. Et en fait, en NBA, on n'a rien. On s'améliore quasiment jamais sans sacrifier quelque chose, sans être moins bon ailleurs. Sauf si vraiment on a une extrême chance. Et je pense que Gobert leur a permis pendant plus d'un an et demi d'être létal en attaque parce qu'ils pouvaient jouer avec Bogdanovic, Mitchell, Conley, même finir des matchs avec Clarkson des fois en tant que quatrième gars. Ouais. Mais ça, c'était juste parce que Gobert, derrière, il avait ce rôle de tour de contrôle, de pierre angulaire défensive. Je pense qu'en fait, on a vu que peut-être qu'il faut affaiblir un petit peu le rating offensif. Ils ont un rating offensif historique quasiment. Ils sont incroyables. Et il faut, je pense, pour les playoffs, avoir un joueur capable de beaucoup mieux défendre sur point attaque. Moi, je suis un peu déçu par le moment de Donovan Mitchell là-dessus. Je pense qu'il peut le faire, mais il le fait pas assez. Et en playoff, il l'a jamais vraiment fait non plus. Aussi parce qu'il avait un grosse
responsabilité.
Rôle offensif, voilà. Mike Conley, il peut plus trop le faire. Clarkson ne le fait pas. Royce O'Neal, c'est beaucoup plus théorique que réel, je trouve, sur le point of attack. Je trouve très bon chasseur loin du ballon et tout ça. Oui, je veux pas parce que je veux le garder. Il leur faut Marcus Smart, toi. Mais il leur faut un mec de 1,90, 1,95, fort sur le haut du corps, qui peut tirer en catch and shoot et qui va s'occuper plus de 50% du temps du ball handler numéro 1. C'est cher.
Jean-Jean Chart.
C'est ça, exactement. C'est cher. Donc ça veut dire se séparer d'un starter ou d'un mec important dans leur rotation, mais il faut qu'ils le fassent. Moi, c'est une des équipes sur qui je vais vraiment le plus. Pour moi, il faut qu'ils fassent ça maintenant, parce que sinon, ça va être la même mélodie encore. C'était pendant les playoffs.
Et est-ce que tu penses qu'ils peuvent atteindre, par exemple, un buyout potentiel de, par exemple, Gary Harris?
Oui, c'est Gary Harris. Oui, mais Gary Harris,
Adrien n'y croit pas. Adrien n'y croit pas du tout.
Non, mais c'est Gary Harris.
On a vu ta moue.
J'y ai cru pendant longtemps, Tom, à Gary Harris, mais...
Ouais, Tom, t'as souvent écrit sur comment on surcotait le marché des buyouts. Après, Gary Harris, c'est un marché des buyouts différent. C'est pas un vétéran de plus de 32 ans, type Joe Johnson aux Rockets ou un truc comme ça, qu'on surcotait un peu. Si Gary Harris sort... Mais moi, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent trader pour Gary Harris, franchement, avant la deadline.
À 20 millions ?
Ouais, oui, t'as des équipes qui peuvent ingérer de l'argent dans un truc à 3.
Ouais.
C'est à voir, mais je pense qu'il faut ce défenseur sur les bases extérieures parce qu'en réalité, toute leur fantaisie autour du quand Gobert n'est pas là pour la protection de cercle, ouais, mais ça va être quoi en playoff? 10 minutes?
Ouais, c'est ça, c'est pas possible.
Je préfère les 40 minutes où j'ai un mec qui se fait pas driver sur la tête tout le temps.
Ah bah bon, rendez-vous jeudi pour en reparler, peut-être, on l'espère, pour eux.
Josh Hart, c'est incroyable. L'idée est incroyable, ouais. Mais.
Ou même Melton aussi. Même Melton, ça pourrait être intéressant pour eux.
Et ben, il y a des joueurs, mais...
Voilà. Il faut avoir la volonté de sacrifier, comme tu dis, dès maintenant, les pièces nécessaires pour les récupérer. De toute façon, on va exploser le chrono. Je le dis déjà à l'avance. Je m'excuse auprès de Ben, mais on a encore quelques équipes à mentionner, notamment du côté des acheteurs, puisqu'on vient juste de commencer, même si on va peut-être être plus succinct pour cette catégorie-là qui vient d'arriver. Qui sont les opportunistes, mais du côté des acheteurs, cette fois, on a parlé des Clippers tout à l'heure, quand on évoquait le trade avec les Blazers. Bon, a priori, les Clippers, ils ont fait leur boulot. On ne devrait pas trop les voir bouger.
Complètement.
Ouais. Très bien. Et donc, du coup, le reste des équipes qui sont catégorisées là-dedans, je vais les lister. Et puis après, si vous avez des choses à dire, on ira dessus. Il y a les Raptors, peuvent être intéressants. Le Heat, a priori, qui ne doit pas tant bouger que ça. Les Bulls, où il y a quelques questions qui se posent, on y reviendra peut-être. Les Cavs, et les Grizzlies. Tom, tu veux parler de qui ?
Les Raptors, je trouve que les Raptors, c'est hyper intéressant puisque c'est une équipe qui est un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a le niveau limite au-dessus du play-in de son 5 majeur, mais il tire énormément sur les minutes du 5 majeur parce que t'as l'impression que Nick Nurse, il a pas confiance au mec du banc. Mm. Et en fait, pour moi, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont le contrat de Goran Dragic qui ne sert à rien et qu'ils devraient utiliser ce contrat-là pour... Et au moins essayer d'ajouter un sixième joueur qui peut les aider dans la rotation, puisque là, quand tu regardes, c'est genre 35-40 minutes, voire 50 minutes pour le 5 majeur, et tu vas avoir peut-être du Chris Boucher qui va de temps en temps sortir du banc et tout ça, et c'est très compliqué pour moi. Ils se qualifient pas par exemple avec la sixième place, moi ils vont arriver sur les rotules vraiment en fin de saison hein, s'ils continuent à jouer comme ça, puisque c'est un système de jeu très très énergivore.
Quelle équipe à 20 millions de joueurs de salaire à peu près, ça doit être ça pour Goran Dragic à aller chercher plutôt qu'à attendre le buyout qui a l'air de se dessiner.
Peut-être Gary Harris. On y revient, hein. Peut-être Gary Harris dans cette équipe-là, il fait sens. Dans cette équipe-là, je pense qu'il pourrait faire sens, hein, Gary Harris. Même Evan Fournier dans cette équipe-là, il pourrait faire sens.
Mmh. Tu rajoutes un meneur à Thibodeau et Goran Dragic, ça lui plaît.
Clairement, moi, enfin, je trouve que, enfin, ces gars-là, ils font sens. Après, j'ai entendu pas mal de fois, par exemple, Domantas Sabonis mentionné pour cette équipe-là, mais je pense pas que ils seront vendeurs. C'est plus une équipe qui cherche à assainir ses finances. Par exemple, si ils essayent ils proposent à Houston le contrat de Goran Dragic avec, je sais pas moi, un second tour de draft ou un joueur qu'ils ont drafté cette année pour, par exemple, intégrer Eric Gordon. Par exemple, tu vois, Eric Gordon, dans le système et dans la façon de jouer de Toronto, il rentre.
Toronto peut se viser en troisième équipe aussi dans un trade là-dessus. Ça peut servir à ça aussi.
Après, la problématique avec Toronto, c'est qu'ils sont à peu près à 300K de la luxury tax. Donc du coup, je pense pas. Enfin, en termes de salaire, il faut que ce soit quelque chose plutôt d'équilibré, puisque je pense pas qu'ils iront dans la luxury tax, puisque aujourd'hui, quand tu vois les équipes qui sont dedans, avec la redistribution, c'est 10 millions quand t'es pas dedans, c'est 10 millions récupérés quand t'es pas dedans, quoi. Donc on voit tout l'intérêt de rester en dessous.
Effectivement, ça parle. Dans ces équipes opportunistes, toi, Alan, est-ce qu'il y a une équipe qui t'inspire, les Raptors aussi peut-être, ou?
Non, Tom a tout dit, je trouve, sur les Raptors, que c'est les quatre joueurs, leurs cinq plus, soit Siakam, soit Precious Achiuwa, c'est les seuls cinq qui ont joué plus de 150 minutes pour leurs deux équipes, et les autres, ils ont pas un cinq qui a joué plus de 100 minutes. Ça prouve toute cette dichotomie qu'il y a dans l'utilisation. D'ailleurs, derrière, ils utilisent beaucoup de jeunes, ils utilisent des jeunes. Non, Chicago, ça m'intéresse de savoir toi, ce que t'en penses, en fait. Plus que ça, parce que, alors oui, Ça a l'air de tenir, là. Ça tient.
Ah oui, ça tient, c'est le mot. Ça tient. C'est pas comment, mais ça tient.
Ça tient parce que t'as des joueurs qui surperforment. Tu joues pas les meilleures équipes non plus, mais tu dois gagner des matchs et tu les gagnes. Ça m'intéresse parce que c'est une équipe qui était sur, quand elle était au complet cette année à l'Est, un prétendant à l'avantage du terrain. Donc ça m'intéresse de savoir.
Bah, c'est ça. C'est au moment où ça gagnait bien, quand on était au complet, etc. Il y avait cette question du, justement, avant la trade deadline, de faire un push pour un joueur.
J'arrêtais pas de t'envoyer des propositions pour Harrison Barnes.
C'est ça. Bah, d'un ailier pour faire un push pour devenir, entre guillemets, un contender sérieux. Bon, là, effectivement, on joue en effectif très réduit. Bon, le début de saison, Pat Williams qui a été blessé. Puis là, dernièrement, c'est surtout donc Caruso et ce cher Lonzo qui ne sont pas là. Donc, effectivement, ça tient. On ne sait pas trop comment, parce que la défense est abyssale. Mais bon, ça tient notamment avec l'émergence du rookie, Dayo Dosunmu, qui, justement, défend le point of attack, qui met ses tirs, qui est très, très propre pour un rookie. C'est un peu un miracle, en tout cas pour le niveau de jeu qu'il affiche pour l'instant. Et ça pose d'autres questions. La question, c'est donc, bon, est-ce que tu comptes sur le fait de retourner, d'arriver au complet, en gros, play-off, parce qu'a priori, sur ce rythme-là, on sera en play-off. Après, comment, à quel niveau, on verra, vu comme l'Est est serré, mais tu devrais y être et tu comptes là-dessus et tu veux faire un push comme ça, comme tu dis, pour ces fameux ailiers, mais qui risquent d'être demandés. que ce soit des Barnes, des Jeremy Grant qu'on a cités, etc. Est-ce que fais-tu de Coby White? Parce que l'émergence d'Ayo pose aussi cette question. Il y a la valeur de Coby White sur le marché, qui est un joueur qui peut être intéressant, qui peut, dont tu peux te servir justement pour récupérer ce fameux ailier, puisque de toute façon, tu as trouvé un autre guard pour mettre à la place. La question Patrick Williams, qui n'a pas joué jusque-là, mais qui sur le profil est quand même... Bon, dans la timeline, ça ne correspond pas, mais sur le profil est le joueur que tu as envie d'avoir, en fait, à côté de Vucevic, DeRozan, Lavine.
Ah, mais ramener Vucevic, Lonzo et DeRozan, c'est pas aller avec la timeline de... C'est pas aller avec la timeline de on a drafté un mec en 4.
Non, mais c'est ça. C'est que la timeline ne correspond pas, mais le profil du joueur correspond.
Complètement. Donc, complètement.
Donc, la question se pose de comment tu la joues, parce que Patrick Williams a quand même encore une cote assez importante. Honnêtement, moi, j'ai pas trop envie de bouger sur cette saison. Je pense que faire un push, c'est mettre la charrue avant les bœufs, pour utiliser une expression bien française consacrée. Tu peux penser qu'à l'Est, il y a une fenêtre, qu'au complet, on peut être théoriquement, même s'il y a des équipes que je pense meilleures, tu peux théoriquement aller te dire qu'à l'Est, tu peux arriver à aller en finale. Après, ça risque d'être compliqué, mais on sait jamais, quoi, avec les différents contextes. Je pense quand même que les équipes en haut de tableau à l'ouest, pour ne pas citer les Phoenix Suns, sont bien meilleures. Et même au complet, tu les as pas. Et même un push pour Harrison Barnes, ça va pas te faire passer ce step-là. Donc pour moi, tu peux attendre. On n'est pas pressé, en fait. Ces joueurs-là, ils auront la même valeur Coby White, Pat Williams. Ils auront la même valeur cet été que ce qu'ils ont là. Donc à part très bonne opportunité, j'ai pas spécialement envie de faire un push, de déséquilibrer éventuellement un vestiaire parce que ça a l'air de bien se passer, etc. On peut raison garder un petit peu et prendre les choses été par été plutôt qu'y aller maintenant. Ça dépend après toujours des coups de fil, évidemment.
Bah, c'est surtout que Pat Williams, d'ailleurs, vous n'avez pas eu la disable exception pour lui, ce qui veut dire que la Ligue considère qu'il pourrait potentiellement revenir et jouer du coup à la fin de la saison. Donc, il y a toujours moyen de tester. Après, tu as parlé de mettre la charrue avant les bœufs. Ben, Karnišova, c'est limite ce qu'il a fait au final. Parce qu'il a transféré l'an dernier.
Ouais, c'était pour prolonger Lavine. C'était pour montrer à Lavine que tu allais amener des joueurs, etc. Que tu allais être compétitif. Là, maintenant, tu l'as prouvé. C'est bon. Donc, il est bon. Là, je pense que Zach, il va rester. Tout ira bien. Là, tu n'es plus obligé.
Parce que finalement, tu vois, tu as ramené le numéro 3 avant d'avoir peut-être le numéro 2. Tu vois ? Ou le 1 bis.
Ah, ça dépend comment. Qu'est-ce que tu considères comme un bis ? Parce que bon. De Rosanne Lavine, ça va très bien comme un bis, mais.
Oui, c'est ça. Enfin, quand je te dis un bis, c'est-à-dire que dans l'architecture de votre équipe, aujourd'hui, Vucevic, c'est clairement le troisième joueur et il est limite plus proche, entre guillemets, de ce qui est, par exemple, Lonzo Ball, qu'il est proche des deux qui sont plus hauts. Mais au final, ça a été le premier move qui a rejoint le projet. Et peut-être que si ça se trouve, si lui, il n'était pas arrivé, peut-être que DeRozan ne serait jamais venu non plus.
Peut-être aussi.
Tu vois ?
Complètement.
Mais maintenant, tu l'as. Donc, de toute façon, après, Vucevic, on pourrait s'étendre pendant 25 minutes déjà qu'on va exploser le chrono, mais Vucevic qui doit s'adapter justement à ce rôle de troisième aux côtés des autres, ça a été compliqué. Là, ça se passe mieux avec Ayo en meneur. Il a l'air de mieux le trouver sur pick and roll. Donc, il a fait quelques performances dernièrement qui nous permettent de tenir, comme tu disais, Alan. Donc, à voir ce qu'il y a à faire, mais je pense qu'en l'état, on ne devrait pas bouger, sauf.
Tu ne vas pas bouger, vous n'allez pas bouger. À part des moves, par exemple, mineurs, vraiment. Si, par exemple, ça vous coûte uniquement Derrick Jones Jr.
Peut-être pour un pivot, ils ont pas.
Pour le vote pivot
exactement,
backup.
Exactement, ce truc-là n'avait pas l'air d'être fan du côté du coaching staff, de ce que peuvent proposer les pivots actuellement, donc peut-être comme ça, mais sinon.
Il regrette Félicio ?
Non, pas du tout.
Non.
Je regrette Omer Hachi. Non, pas du tout. Et puis, de toute façon, là, on est court parce que tu as plein d'ailiers blessés. Donc, au bout d'un moment, déjà, on était court de base. Ouais, et en plus, tu perds ton cas titulaire. Pendant un moment, on n'a pas eu Javonte Green. Enfin, bon, au bout d'un moment, plus.
Même Lavine qui est des fois in and out avec ses problèmes de dos.
Plus de blessures. Plus, on le répète souvent chez Dunk Hebdo, plus les joueurs qui voient le terrain, c'est des joueurs qui normalement doivent soit pas le voir, soit avoir des minutes très succinctes. Donc forcément, tu baisses en talent, ça tient au niveau des victoires, pas besoin de paniquer. Ouais.
Complètement.
Bon, passons à la dernière catégorie maintenant qu'on a passé l'heure, pour bien exploser le chrono, messieurs. Ouais. Les acheteurs-vendeurs, comme ils ont été surnommés, et les premiers dont on a envie de parler, c'est les Wizards. Les Wizards, dans le genre d'équipe entre deux, justement, ils portent bien son nom, leur nom, les Wizards. Alors, ils sont 11e à l'Est, ils sont dans la course, là, le ventre bien, j'allais dire ventre mou, mais pas du tout. C'est très, très dense à cet endroit-là. Mais Mais on ne sait pas bien ce qu'on va faire du côté des Wizards. On a du monde, il y a des histoires autour de Dinwiddie qui ne seraient plus forcément en odeur de sainteté. Il y a le fameux cas Bill qui traîne depuis un moment. Est-ce que tu gardes Bill? Est-ce que tu renforces autour de Bill? Est-ce que tu, du coup, tu l'envoies parce qu'il a une vraie valeur pour le coup celui-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on est Wizard? Est-ce qu'on tranche déjà sur cette trade deadline?
Moi, je pense que oui, hein, parce que c'est une équipe qui est quand même sur la pente plutôt descendante. Hein. C'est une équipe qui avait commencé très fort la saison, qui est restée longtemps premier à l'Est et qui a finalement continué à dégringoler petit à petit jusqu'à se retrouver hors du play-in. Quoi. Et la profondeur, malheureusement, aujourd'hui, la profondeur ne leur suffit pas, tout simplement parce que tu as pas mal de joueurs qui étaient... positif en début de saison, qui sont progressivement sortis de la rotation. Par exemple, je pense à Daniel Gafford. Alors, je pense que Gafford n'était pas sorti de la rotation parce qu'il est mauvais. Comment ?
Je t'en prie. C'est lui que je regrettais comme pivot défensif. Pivot remplaçant,
oui.
Pardon.
Bah oui, tu m'étonnes. Tu vois, je pense qu'il n'est pas sorti de la rotation parce qu'il est mauvais. C'est un joueur qui a été prolongé par le front office. Je pense qu'il a été sorti de la rotation pour essayer de choquer un peu Thomas Bryant. Pour qu'une équipe essaie de se hyper sur Thomas Bryant et du coup pour améliorer sa valeur marchande. Même Montrezl Harrell qui est aussi des minutes, qui lui aussi est en fin de contrat. Je pense que ces joueurs-là peuvent être sont mis en avant pour pouvoir mieux être échangés.
Alors, échangés pour quoi ? Pour préparer l'après, pour reconstruire ou pour renforcer autour de Bill ?
Je pense plus pour renforcer autour de Bill. Hein. Je pense qu'ils vont re-signer Bill sur son max vétéran. À 250 millions là ou sinon ce sera un opt-in entry, c'est-à-dire que Bradley Beal au lieu de décliner son option va l'activer et va être transféré quelque part et ensuite là où quand il arrivera dans l'équipe, il fera tu vois, il demandera une extension de contrat au max quoi. Ou sinon ce sera le scénario où il re-signe pour les 250 millions là sur 5 ans. Et un an après, il demande son transfert parce qu'il aura dit, voilà, j'ai tout tenté, je suis resté, machin, je vous ai donné 11 ans. Maintenant, je suis payé, je vais autre part.
Je vous ai donné 11 ans.
Je vous ai donné 11 ans et je pars autre part maintenant. Je fais une Kevin Garnett.
Alan, alors, est-ce qu'on voit plus la Kevin Garnett ou pas?
Mettez pas ces deux joueurs-là dans la même phrase. Non, mais pour paraphraser Tom, c'est un roster à trade pour moi. C'est un roster à trade. Sur les types de contrats et sur les types de joueurs. Type de contrat entre 10 et 20 millions sur plusieurs années, type de joueur potentiel 4e, 5e, 6e joueur d'une rotation de playoff. Par ces joueurs-là, j'entends surtout Caldwell Pope, notamment, qui toute sa vie, je pense, sera un joueur à trade. Toute sa vie, il va être.
Ce qui est pas si mal, hein, en vrai.
Oui, ce qui...
c'est le nouveau Robert Covington.
Ouais, c'est ça, le Trevor Ariza, le Robert Covington, ce genre de joueur-là, parce qu'il est toujours utile dans n'importe quelle construction d'équipe. Il y a le cas Montrezl Harrell. Je pense que autant tous les problèmes qu'il a, bah, je pense que dans certains types d'équipes, on pourrait peut-être l'avoir en pivot backup sur une fin d'année, et on pourrait même masquer ses déficiences si t'as avec lui un certain type de profil. Pour moi, la vraie question, c'est les deux contrats donnés à Dinwiddie et Bertans. Ça, c'est parce que c'est encore pendant 3 ans, et donc je sais pas. Moi, je pense que ils ont même pas besoin de bouger pour rentrer dans le rang, parce qu'ils rentrent dans le rang là en fait. Comme a dit Tom, ils ont très bien commencé, mais là ils surperformaient dans le clutch comme c'était pas possible, je trouvais, sur le début d'année. Et je pense que ouais, ils ont intérêt, je sais pas, à donner des minutes à Avdija et à Shimura. Je pense que ça va, ils vont rentrer dans le rang tranquillement. S'ils doivent bouger, ils bougeront, mais ils ont même pas besoin de ça, je pense, pour être là où ils sont.
Ils sont presque autant opportunistes qu'acheteurs-vendeurs, finalement, si on reprend nos catégories.
Ouais, complètement.
Autre équipe qui fait beaucoup parler pour le coup, mais qui fait parler depuis là, ça commence à faire long, hein, cette affaire Ben Simmons, puisque évidemment, on va parler des Sixers. Des Sixers qui, eux, pour le coup, sont aussi un peu dans la mêlée, mais ils sont un peu plus haut, et puis ils ont un joueur quand même dans la course au MVP, en la personne de Joel Embiid. Mais justement, à la base, tu as ce Ben Simmons à côté de Joel Embiid, c'est comme ça que tu veux construire ton effectif pour avoir des ambitions qui sont celles du titre, hein. Il faut dire les termes. Sauf que,
oui, t'as 33 millions qu'on peut jouer cette année.
Voilà. Voilà.
33 millions.
Voilà. Alan vient de tout dire. Qui ne joue pas? Ben Simmons qui ne joue pas. On n'en voit pas le bout du tunnel. On entend toujours ces rumeurs autour de Ben Simmons, James Harden notamment, Ben Simmons, les Kings. On en l'a évoqué un peu plus tôt. Ben Simmons à Neuchâtel.
Ben Simmons à Atlanta. Ça, on entend aussi.
Pourquoi pas. Bon, effectivement, du côté des Sixers, on a envie de s'en débarrasser de ce cas Simmons, mais est-ce qu'on va y arriver ? C'est ça la question.
Ça, tout dépend de Daryl Morey.
C'est que lui qui a la réponse. Pour arrêter, hein.
C'est lui qui a la réponse. Hein. Au bout d'un moment, on ne peut pas en dire plus. Il y a du coup le cas James Harden. Enfin, Shams Charania a publié un billet où il expliquait que finalement, qu'il y a possibilité, entre guillemets, que les Sixers se lancent à la poursuite de James Harden, du coup, en utilisant Ben Simmons. Personnellement, moi, j'y crois pas. Ouais. J'espère avoir tort, hein, mais enfin, j'y crois pas, du moins, en tout cas, à la trade deadline, j'y crois pas du tout. Ensuite, enfin, les Sixers, faudra quand même qu'ils essaient de se renforcer, parce que là, même si ça tient avec Embiid, voilà, enfin, au niveau des playoffs, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être les joueurs comme Maxi, des joueurs comme, voilà, comment ces joueurs-là vont répondre, puisque là, c'est la première fois qu'il est dans le rôle, entre guillemets, de lead guard, hein, Tyrese Maxey. Du coup, c'est un joueur qui fait une excellente saison, hein, dans son rôle. Tu as des pépins physiques, notamment au niveau du coup de Seth Curry. Ils peuvent pas Harris se permettre aussi de perdre Seth Curry. Tu as Harris, voilà, Danny Green, on sait. Voilà, Danny Green.
Sur courant alternatif, on va dire.
À n'importe quel moment, il traîne un peu la jambe et tout ça. Voilà, quoi. Donc, c'est une équipe qui aura. Pour moi, c'est une équipe qui a besoin de bouger. Alors, pas uniquement pour Ben Simmons, mais qui a besoin de bouger son roster pour donner plus de chance à Joel Embiid, quoi. Tout simplement parce que le gars, il fait des dingueries soir après soir, là. C'est du n'importe quoi. Il est limite passé favori, là, désormais, pour le titre de MVP. Enfin, sur les sites de Paris, par exemple. Il est quasiment favori sur le site de MVP. Faut lui donner, faut maximiser ses chances avec ce gars-là.
Je rappelle que Joel Embiid n'est pas un All-Star titulaire selon plus de 50% des joueurs de la Ligue. D'après les votes pour le All-Star Game, je tiens à le rappeler. Non, mais effectivement, ça devrait bouger du côté des Sixers. Mais on bouge quoi pour qui? Parce qu'au final, tes meilleures pièces sont. Tes pièces qui ont le plus de valeur sont tes meilleurs joueurs. Donc, si tu les envoies, est-ce que c'est une question de profil? Qu'est-ce que tu peux cibler? Alan, tu ferais quoi, toi? Enfin, déjà, qui tu peux mettre sur le marché? Pour qui tu décroches le téléphone?
Table? Je sais pas. Tyball, je sais pas. Pour moi, Tyball, c'est un joueur négatif de playoff. Hein. Enfin, beaucoup de gens veulent pas l'entendre.
T'es dur. Ouais. T'es dur.
Ah, c'est André Robertson, quoi.
La comparaison se tient.
Non.
Si, parce que je le garde, je le défends pas à 3 points. Je ne le défends pas.
Oui, même si tu le défends pas à 3 points en attaque, dans ton système, le timing sur les cuts et tout ça, je trouve que c'est quand même un joueur intéressant, surtout si tu es dans une stratégie, par exemple, de pilonnage où tu as besoin d'avoir plus de possession que l'adversaire. C'est un joueur qui va t'aider si tu as besoin d'avoir plus de possession que l'adversaire pour gagner les matchs.
Il fait beaucoup de stocks parce qu'il est beaucoup dans l'interception.
Ouais, des choses comme ça, il est disruptif aussi.
C'est lui qui défend tes points of attack, on en parlait plus tôt.
Il n'est pas que c'est un joueur négatif.
Oui, mais pour moi, c'est pas un joueur qui doit avoir plus de 20 minutes le terrain sur un match de playoff. Un vrai match de playoff. Je parle pas du premier tour. Donc sur les matchs clés. Donc c'est pas quelqu'un qui est comme tu l'as dit Adrien, qui est intouchable ou quelque chose comme ça.
Après il a un contrat, moi, contrat encore très faible. Hein.
C'est ça. Moi je pense juste que c'est Daryl Morey. Mais de toute façon, on le sait. Daryl Morey, il croit, quand tu regardes ce qu'il a fait, il croit dans roster. Donc genre au max, genre au minimum. Et il croit dans le fait qu'il ne lâchera pas ce qu'il pense être un asset positif en Ben Simmons pour une chose qui est meilleure que Ben Simmons. Je pense qu'il l'a déjà dit, je pense qu'il est même prêt à attendre toute la saison. Donc moi, je pense que je vois honnêtement Philly ne rien faire avant jeudi. Je les vois ne rien faire. Voilà. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je pense que dans leur construction d'effectifs, leur timeline... alors oui, c'est faut prendre en compte Embiid. Je suis l'un des premiers à toujours mettre en avant les perfs de Joel Embiid, mais je pense qu'il c'est peut-être un petit peu trop compliqué.
Eh ben écoute, moi je pense un peu à peu près la même chose. Enfin, sauf chamboulement de de l'histoire Ben Simmons, qui est pour moi le creux du problème. Mais a priori, comme tu l'as dit, il y a peu de chances. J'ai du mal à les voir faire des trades à la marge, s'immiscer, parce que en plus voilà, comme tu l'as dit, de par le fait qu'ils ont soit des gros contrats, soit des tout petits contrats. Le seul contrat entre guillemets intéressant, c'est Danny Green, quoi. Mais sauf que qu'est-ce que tu récupères avec du Danny Green dedans? C'est pas extraordinaire, quoi.
Surtout que tu en as besoin. Et il est plus intéressant pour toi de l'avoir.
Oui, que ce que tu vas récupérer pour Danny Green. Donc, de toute façon, voilà, l'intérêt à bouger est assez limité. Encore quelques équipes avant de conclure ce podcast, messieurs. On va parler notamment parce qu'ils sont dotés des Pelicans. Les Pelicans, ils vont beaucoup mieux. C'est peu de le dire après le début de saison qui était catastrophique. Hein, on en avait parlé. Bon, du côté des Pelicans, est-ce qu'on est vraiment acheteur? Est-ce qu'on est en train de temporiser? Tom, tu les as mis là comme acheteur-vendeur. Bon, c'est ça, on est à l'écoute. Quoi. Finalement, ils sont presque opportunistes, quoi, les Pelicans.
Oui, non, je pense que c'est une équipe qui peut potentiellement essayer de se renforcer pour deux raisons. La première raison, le general manager est sous pression. Il joue peut-être sa tête. Donc, généralement, quand les general managers sont sous pression et jouent leur tête,
ils vont avoir tendance
à faire des panic moves. Ils seront tentés à faire une dead dance pour rester dans le jargon. Et même si l'équipe est mauvaise, ils peuvent se dire qu'ils ont des chances de pouvoir accrocher le play-in, hein, vu l'état, entre guillemets, des équipes qui sont en bas de la conférence Ouest, ou du moins qui... Enfin, limite, t'as l'impression que personne ne veut la 10e place. Et limite, les équipes qui essaient de l'avoir ne sont pas assez bonnes pour l'avoir. Par exemple, les Kings, qui aimeraient bien se glisser dans le play-in, mais qui ne sont pas assez bons malgré eux. Et après, l'autre chose qui peut être peut-être encourageant pour les Pelicans, c'est que quand, par exemple, tu regardes les line-up, par exemple, qui ont joué plus de 100 possessions, il y en a à peu près 13 depuis le début de la saison. Les Pelicans sont 3e au net rating depuis le début de la saison, avec le 5 Devontae Graham, Josh Hart, Ingram, Jones et Valanciunas. Donc du coup, ça montre qu'il y a quand même une base solide qui fonctionne cette saison sans Zion. C'est juste ce qui est à côté qui n'est pas assez bon. On les a entendus par exemple dans des rumeurs pour CJ McCollum, on les a entendus dans des rumeurs pour Gordon. Donc voilà, ce sont même pour Norman Powell avant qu'il soit transféré. Donc c'est peut-être une équipe qui va essayer de transférer des tours de draft, mais qui peut aussi, par exemple, tenter de vendre des joueurs comme Josh Hart ou même Valanciunas, par exemple, pour essayer de récupérer une valeur, notamment, par exemple, avec Charlotte.
Tu veux un meilleur guard play, quoi, finalement. C'est pour un guard.
Voilà,
c'est ça. Alan, tu ferais la même chose?
Ouais. Tom a tout dit pour moi. Ils sont dans l'amélioration du guard play sur moyen long terme, je pense.
Très bien, on va pas paraphraser et s'étendre. Avant de conclure, parce que maintenant que le chrono est dépassé, il y a une équipe qui n'est pas notée dans cette liste, mais j'ai envie d'entendre vos avis assez rapidement, parce que c'est les Hawks, parce qu'ils ont bougé. Les Hawks, ils ont commencé à bouger, entre guillemets.
Ils ont rien à faire pour moi. Ils ont fait, c'est bon. Ils ont leur rotation maintenant, c'est 9 joueurs. C'est Okongwu qui joue beaucoup plus. C'est...
Le recrue, c'est DeAndre
Hunter. Voilà, DeAndre Hunter qui est revenu. Plus trop de questions sur les postes 3-4. Bogdanovic qui, cette année, est l'initiateur en sortie de banc. Alors que l'année dernière, c'était Werther sur la période de playoff avec Lou Will. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ça va beaucoup mieux.
Voilà.
Moi, je suis très content de ce qu'ils ont fait. Franchement, ils ont fait des choix nécessaires et qui pouvaient leur valoir peut-être des critiques dans la réception avec le public. Mais aujourd'hui, toujours est-il que... Alors oui, c'est parce que Trae Young est super fort en ce moment et parce que Hunter est de retour, mais je crois qu'ils sont quoi sur 7 victoires en 9 matchs ou quelque chose comme ça. Ils ont perdu contre Toronto il y a 2 nuits. Ils ont fait un excellent match contre Phoenix. Phoenix, c'est la meilleure équipe de NBA. Ils les ont vraiment bien battus. Ouais. Donc moi, très content de ce qui se passe. Et eux, je les vois. Je pense qu'ils ne seront pas au play-in, Atlanta.
Tu penses qu'ils remontent 6e?
Je pense qu'ils vont remonter dans le top 6.
Et qui c'est qui sort au-dessus? Cleveland?
Toi.
Moi?
Toi.
Non.
Non, Cleveland, je pense. Cleveland aussi, là, est sur une, un peu comme Cleveland Chiro gagne des matchs, là, mais c'est sur un fil sur pas mal de
trucs. C'est toutes les équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, Cleveland et nous, pour le coup.
C'est ça, c'est normal.
Ils ont beaucoup de blessés, Cleveland. Tu vois, Darius Garland, il a raté pas mal de matchs aussi cette semaine. Il a raté pas mal. Enfin, c'est des mecs qui startaient Brandon Goodwin.
Bien sûr.
Et tu veux pas gagner des matchs et starter Brandon Goodwin.
Mais si Atlanta est au complet, je pense que c'est une meilleure équipe que Cleveland.
Ouais, donc, c'est vrai.
On verra. Enfin,
en tout cas, on est un peu plus positif pour Atlanta. Ça va mieux après les frayeurs quand même de ce début de saison où commençait à y avoir des tensions dans le vestiaire, etc.
Bien sûr.
L'échange de Cam Reddish.
De Cam Reddish, effectivement, avec New York, dont on parlait un peu plus tôt. Bon, je pense qu'on a assez fait le tour. Ça fait une bonne heure et quart qu'on discute. Donc, on a un peu cassé le chrono, mais comme promis, de toute façon, c'est la trade deadline. C'est une fois par an. Il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, puisqu'on va se donner rendez-vous pour la trade deadline. C'est ce jeudi. Donc, ce jeudi soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Dunk Hebdo. On va vous faire un live. On vous avait demandé sur Twitter. On vous espère évidemment nombreux. Comme disent les professionnels, abonnez-vous et mettez la cloche pour être bien au courant. Et puis, pour ceux qui ne seront pas là et pour tout le monde, évidemment, ce sera disponible en replay. Et vous retrouvez, comme d'habitude, les podcasts sur les plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Podcast Addicts. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, hein, toujours ravis. Là, je pense qu'on aura des choses à se dire d'ici à la trade deadline. Donc, vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast un peu plus long qu'à l'accoutumée aujourd'hui. Et merci, les gars.
Merci à toi. Merci à vous, les gars.
Merci à toi. Et puis, on se rejoint pour le live.
À jeudi.
Exactement. À jeudi, tout le monde.
Salut.
Salut.